Du studio Couleur, du salon de la radio et de la télévision française, nous vous présentons un spectacle en direct.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire?
Eh bien, il va falloir les assommer.
Ouais.
Et les tuer, oui. Bien entendu. Aïe, voilà. Aïe. Alors, pour les tuer... Viens là, ma biche. Viens là, ma biche.
CO2, mon amour.
Là, il faut pas être un grain de tenue, hein.
Denis Chessoux.
Tu ne reviendras plus.
Émission comme les animaux, je vous rassure. Oui, ah bah oui, c'était Maïté, hein, c'était ça aussi à l'époque et puis peut-être encore aujourd'hui. C'est au de mon amour avec vous parce qu'on n'attend pas le changement mais que nous sommes le changement. Avec à la technique Élise Christophe et Grégory Wallon et assisté de Jérôme Boulès et Christophe Humbert qui colorise, qui réalise l'émission. Je n'oublierai pas non plus Albert Bouc. Allez, une petite humeur qui n'aura en aucun cas, vous le savez, une vérité révélée, loin de là, juste une humeur et pas une condamnation. Le Conseil de l'Europe vient en effet de rappeler à la France qu'elle ne pouvait se permettre d'avoir la main trop leste vis-à-vis de nos chères têtes blondes, brunes et toutes les autres. D'ailleurs à ce sujet, dans l'actu du Montilou, demain à 19h54, je vous proposerai un livre très intéressant sur la fessée. Oui, pour le Conseil de l'Europe, la fessée reste systématiquement sans fondement. D'ailleurs, ça évitera à Jean-Claude Juncker de s'en prendre une, lui qui fut l'un des phares de l'optimisation fiscale, comme on dit pudiquement, au Luxembourg. Hasard de l'actualité, c'est Areva cette semaine qui subit un camouflet qui vaut bien des fessées. Le géant de l'atome vient d'annoncer 4,8 milliards d'euros de pertes dans son exercice 2014, donc une broutille. Un trader de la Société Générale au mieux de sa forme n'aurait pas fait mieux, disons-le, et puis bravo à Mme Lauvergeon pour son excellente gestion du dossier pourri du Ramin, entre autres. Que faire pour redresser donc la barre et laisser encore entendre sans vergogne que l'énergie atomique, c'est l'avenir. Bah, l'EPR, cette machine fabuleuse dont la mise en service est sans cesse reculée, vous savez, ça fait un peu penser à l'âge légal de la retraite. Vous voyez, hop, le départ de la retraite, on le repousse. Bah, c'est pareil pour l'EPR. Et bah, ça donc nous a été un peu vendu comme panacée, enfin pas complètement, mais capable de recycler un paquet de vilains déchets de la combustion nucléaire. Et devant un déficit aussi abyssal, bon, on attend au minimum des ingénieurs d'Areva qu'ils inventent le procédé magique, l'alchimie qui recyclerait les pertes et les erreurs de stratégie en bon argent frais, le plomb en or. Alors c'est sûr, à ce prix-là, l'énergie nucléaire ne paraît pas comme ce qu'il y a exactement de plus compétitif aujourd'hui. Seul fut effectivement un cas. Demain, ça va être beaucoup plus compliqué, d'autant que certaines énergies renouvelables dans le monde, maintenant, atteignent ce qu'on appelle la parité avec le nucléaire. Mais ça, c'est dans le monde, hein. C'est pas du tout en France, on a pris pas mal de retard. Et toute proportion gardée, eh bien, cette dérive s'apparente un peu à un réacteur, on va dire, qui s'emballe. Du reste, ne risque-t-on pas, in fine, de demander aux contribuables est à pas 100 balles, et ce sera peut-être un petit peu plus. L'autre refrain désormais habituel dans la chanson du nucléaire, c'est la fermeture de Fessenheim. Bah oui, vous savez très bien maintenant où c'est, au bord du Rhin, etc. À force de la différer, on est un peu comme dans Malbrousse en va-t-en-guerre. Mais bon, la fermeture finira par arriver, puisqu'on vous le dit, et il y aura bien des scrutins à l'issue incertaine qui contribueront un jour ou l'autre à sacrifier le soldat Fessenheim sur l'autel des tractations électorales. Et puis, il faut quand même dire une chose, c'est que si la centrale fermait en ce début du printemps, eh bien, ça tomberait mal. Parce que voulez-vous, les cigognes, elles aussi, se sont habituées au confort moderne. Vous voyez, je vous explique, pas question pour elles de renoncer au chauffage sans carbone avec des nids posés sur les cheminées. On dirait bien que même la biodiversité sans bourgeoise. Et alors pendant ce temps-là, plus au sud, bah c'est le projet du barrage de Sivens, hein, vous l'avez suivi dans l'actualité, qui fait parler de lui. L'argumentaire des pro-barrages s'exprime indifféremment à la barre de fer ou à la batte de baseball. Ah bah oui, on peut être favorable à l'agriculture intensive et rester sportif, hein, y a rien à dire là-dessus. Faut aussi avouer qu'en face, on n'a pas toujours exactement des enfants de cœur. Ces démonstrations de force laissent du reste admiratives, hein, les forces de l'ordre qui ont été dépêchées sur place. À l'époque, c'était pour s'intercaler, il n'y a pas si longtemps, entre pro et anti-barrage. Ce serait une nouvelle tactique du gendarme que de laisser cogner de l'écologiste par la FNSEA interposée. Je ne sais pas, c'est une forme de sous-traitance, si vous voulez, en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, le Conseil général du Tarn vient de statuer sur le devenir du site de Sivens. On en reparle dans quelques instants et forcé de constater que cette décision des élus va faire sûrement déjà l'objet d'un vrai tir de barrage. Mais il me semble que nous avons un merveilleux chroniqueur en ligne, un homme qui est ingénieur en environnement, qui a écrit pas mal d'ouvrages, d'ailleurs un peu d'anticipation, avec pas mal de... Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis.
Bon, je vous êtes pas là parce que je sais que vous gardez vos enfants, donc vous êtes un bon papa, c'est absolument parfait. Donc Sylvain, c'est vrai que quelque part, on va dire, rien de nouveau, on a pris peut-être la solution la plus bétonneuse. Et puis alors on l'a pris en décision de veille élection, c'est assez curieux ça.
Oui, effectivement. On a pris le Conseil général a voté une décision, alors même que la moitié de ses membres ne se représentent pas aux élections et que donc que des élections vont avoir lieu. Donc quelle est la légitimité démocratique de cette décision? Je me pose la question. Alors néanmoins, comme vous l'avez dit, la décision qui a été prise est une décision, oui, bétonnée, certes, mais c'est celle qui correspond à peu près à la moins mauvaise des solutions prônées par les trois rapporteurs qui avaient été dépêchés par Ségolène Royal, hein, Nicolas Forêt, Pierre Alaroche et Pierre Ratouille en octobre 2014 et en janvier 2015, c'est-à-dire en gros divisé par deux le projet initial qui était...
D'un million et demi de mètres cubes et là on passe à 750 000.
Un million et demi de mètres cubes qui était surévalué voilà, de 35%, on le réduit à 750 mètres cubes. Alors il y a juste un point que je veux rappeler qui est bien noté dans les rapports, c'est que le projet tel qu'il était initialement ne garantissait pas du tout une année sur deux d'approvisionnement, c'est-à-dire que le barrage n'aurait été rempli en moyenne qu'une année sur deux, ce qui prouvait à quel point il était surdimensionné. Avec ce barrage tel qu'il a été décidé a priori par le Conseil général, il serait rempli 4 années sur 5, et si on gère ça convenablement, il serait rempli 9 années sur 10. Donc ça semble plus raisonnable, sauf que dans les termes de la décision prise par le Conseil général hier, j'ai regardé, c'est très flou. C'est-à-dire qu'a priori c'est 750 000 m3, mais ça pourrait changer. On ne sait pas non plus où la digue va être installée. Est-ce que c'est à cet endroit-là ou à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres? On n'en sait rien. Comme si on voulait surtout ne pas insulter l'avenir. On va le dire de la Chambre d'agriculture et de la FNSEA. Donc c'est une décision assez étrange quand même.
Oui. Et alors Frédéric aussi, on se rend compte que dans un autre rapport que les agriculteurs, on peut les comprendre parce que beaucoup sont quand même dans un état très très dur, hein, très financièrement. Oui. On fait pas d'amalgame du tout dans cette émission, loin de là, mais que très peu ont envie de payer plus cher l'eau.
Eh bien, c'est ce que disait aussi le rapport, hein, il faut toujours lire les rapports sur lesquels tout le monde s'assoit, c'est que, en termes publics, hein, administratifs, on dit que le consentement à payer est à explorer, c'est à étudier.
C'est-à-dire, moi j'aime bien le consentement à explorer, le consentement à étudier est à explorer, voilà, c'est ça.
Les agriculteurs, alors il y en a très peu, il y en aurait une trentaine, hein, une trentaine qui seraient susceptibles d'être intéressés par la retenue de Sylvain, c'est peut-être 10 en plus, donc ça fait entre 30 et 40. Globalement, ils veulent pas mettre plus de 10 euros à l'hectare pour un ouvrage qui va coûter très cher. Et donc le surplus sera payé par le contribuable. Alors vous l'avez dit...
Pardonnez-moi, quand vous dites 10 euros à l'hectare, c'est par an ou c'est quoi?
C'est par an.
C'est ça,
voilà.
Oui.
Voilà, ils seraient prêts à payer ça. C'est peu et la plupart, en fait, seraient prêts à payer zéro. Voilà. Faut bien savoir que c'est une agriculture. Effectivement, les agriculteurs du coin sont plutôt pauvres. C'est des petites exploitations.
Bien sûr, oui.
En fait, derrière tout ça, si vous voulez... se cristallise la peur de manquer d'eau, et ça, notre histoire n'a jamais été que ça, c'est on a peur de l'eau quand elle est en trop et on a peur de l'eau quand elle n'est pas assez. Et là, le changement climatique, entre autres, a fait que ce que l'on prélève dans la rivière sur place ne cesse de baisser, qu'on sait de toute façon que l'ouvrage tel qu'il va être là aujourd'hui, on sera obligé de lui adjoindre d'autres ouvrages dans les 20 ans à venir parce que, en gros, les quantités disponibles vont diminuer de 0,5% par an. Et donc, les auteurs des rapports et tous les spécialistes sur place disent que si l'on veut vraiment pérenniser l'approvisionnement en eau, ben, il faut changer, ce qui est déjà en partie le cas. Faut changer le type d'agriculture, c'est-à-dire passer à une culture sèche.
C'est là que ça bloque, en fait.
C'est là que ça bloque, même si il y a de moins en moins de surfaces irriguées, il faut le dire.
Bien sûr.
Elles sont passées de 19 à 12% du territoire, et il y a de plus en plus de surfaces en sorgho ou en tournesol, qui sont des cultures sèches, qui n'ont pas besoin d'être beaucoup irriguées.
Est-ce que nous ne sommes pas, Frédéric Danhé, aussi, je vais prendre une image, face à une petite poussière dans le ciel pur avec Sylvains?
C'est un noyau de condensation, c'est-à-dire que tous les gens qui se sont tapés dessus et engueulés à propos de Sylvains ont moins parlé de Sylvains que à la fois d'agriculture, à la fois de changement climatique, à la fois d'eau, à la fois de politique, à la fois de rapport de la nature même de la décentralisation. Tout le monde s'est accroché à
la fois aussi, pardonnez-moi, de jeunes qui n'ont pas forcément d'avenir non plus.
qui n'ont pas forcément d'avis et qui se sont servis de Sylvain simplement pour exprimer, pour dire ouais. « Eh, vous les vieux, nous on est là, hein, voilà. » Ce qui me fait dire que derrière Sylvain, s'il y en aura d'autres, il y aura d'autres Sylvains qui vont se multiplier parce que la société, voilà, il faut qu'il y ait une catharsis, si vous voulez. C'est un peu ce qui s'est passé à Sylvain. Il n'en reste pas moins que derrière Sylvain, c'est vraiment le problème de l'eau. Et on voit bien qu'avec le changement climatique, il y a un changement d'usage des sols et de production agricole. La disponibilité de l'eau est de moins en moins importante en été et qu'il faut trouver des solutions. Et la première des solutions, le disent bien ces deux rapports, c'est une agriculture moins intensive en eau, plus sèche, et un usage des sols qui favorise la rétention de l'eau par les sols, donc des sols de qualité, des sols vivants.
Et alors on va se déplacer un tout petit peu vers l'ouest et le nord-ouest, on va arriver donc dans le Lot-et-Garonne, et on arrive là sur un projet de futur technopole, Agen-Garonne. On est sur deux communes, Brax et Sainte-Colombe en Bruyois, et là aussi, eh ben, on est face à 220 hectares de très bonnes terres agricoles, et il commence à y avoir un sacré clivage là sur place.
C'est ça, c'est pour faire une grande zone d'activité. Alors on pourrait dire que les zones d'activité, on va les faire sur d'anciennes friches ou sur des terres agronomiquement faibles. Ben non, pas du tout. Là, on prend les meilleures terres qui soient. Hein. C'est les terres alluviales, pour nos auditeurs qui connaissent, celles qui sont en deuxième terrasse de Garonne, qui sont situées juste au-dessus d'une nappe souterraine. Donc, ce sont d'excellentes terres. Tous les agriculteurs ne sont pas d'accord, loin s'en faut. Et d'ailleurs, la plupart des élus ne sont pas d'accord. Même le Conseil général n'est pas d'accord. Tout ce beau monde...
Oui, là, c'est la grande différence avec le Tarn. Hein. C'est que là, ouais. Le Conseil général n'est pas d'accord. Hein. Une fois de plus, que l'on comprenne bien aussi donc, vos propos, nos propos, il n'est pas question de refuser tout aménagement systématique.
Ah, c'est pas ça qu'on dit. Pas du tout. D'ailleurs, comme à Sylvain, s'il y a un besoin, il y a un besoin d'irrigation, oui. il y a un besoin d'eau. De toute façon, bon, là, il y a un besoin d'aménager, évidemment, sauf que là, on le fait sur les terres les plus riches. C'est complètement aberrant. C'est tellement aberrant que donc le Conseil général a estimé le 29 novembre 2013 déjà à proposer un plan de développement alternatif. Et le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le plan local d'urbanisme de Sainte-Colombe-en-Bruyois le 10 février 2015 parce qu'il estime qu'il y a un défaut de concertation. Donc on retrouve les mêmes ingrédients qu'à Sylvain, c'est-à-dire un défaut de démocratie qui a été largement dénoncé et dont on a parlé dans l'émission. À cette différence près que là, le Conseil général est contre ce projet, donc est contre, se met en porte-à-faux par rapport à la communauté d'agglomération d'Agen. À un tel point que Manuel Valls a été saisi par un courrier rendu public et signé par beaucoup d'élus locaux qui trouvent ce projet complètement aberrant, inutile, alors que, exactement comme à Sylvain, il y a d'autres solutions alternatives qui n'ont jamais été explorer. Donc voilà un Sylvain bis qui est en train de monter en puissance.
Merci à vous Frédéric, vous restez avec nous. On va partir dans la forêt de la Jouve, je crois que vous la connaissez, dans le département du Jura. Ce sera après notre première chanson. Allons-y, en direct sur France Inter, de mon amour, Juju.
Oui. Pour toute la beauté qu'on délaisse, pour les soleils qu'on n'a pas vus, les passions qu'on n'a pas vécues, pour l'ignorance et la paresse. On va en V1, on rêve, on parle. On va en V1, on rêve, on parle. On rit, on rit. Je suis venu tendre et stupide hanter la maison du bonheur. J'y suis entré comme un voleur et j'ai trouvé la maison vide. On va en V1, on rêve, on parle. On va en V1, on rêve, on parle. On rit, on rit. Tu m'as dit, regarde la lune. Mes yeux n'ont pas quitté ta main. Reste un regret sur mon chemin. Reste un reflet sur la lagune. On va en V1, on rêve, on parle. On va en V1, on rêve, on parle. On rit, on rit. On rit jusqu'à rêver qu'on peut changer de rôle. On rit pour oublier que tout ça n'est pas drôle. J'ai voulu voir la vie en rose, mais les couleurs sont ce qu'elles sont. On aime à perdre la raison en désespoir de toutes les causes. On va en V1, on rêve, on parle. On va en V1, on rêve, on parle. On rit, on rit. On rit jusqu'à rêver qu'on peut changer de rôle. On rit pour oublier
part, on vient, on rêve, on parle. C'était le dernier Julien Clerc. Il y en aura d'autres. Ah, peut-être dans les bonnes nouvelles, je n'ai pas parlé du panda chinois. Bah, alors, le panda chinois, en fait, il augmente. C'est... Mais oui, absolument. Ils étaient 1596 en 2003. Et en 2015, 1864. Bon, vous me direz, si vous faites le calcul, on sent bien que la libido du panda, c'est pas quand même exactement ça. Rien à voir avec des escars. Et alors, donc, et sinon, donc, l'obligation, c'est qu'ils doivent quand même prendre leur carte du parti. Ah oui, dès la naissance. Et aussi, ne pas respirer en ville s'ils ne veulent pas dépasser, s'ils veulent dépasser l'âge de 3 mois, parce que là-bas, c'est quand même un tout petit peu compliqué. 01 56 40 40 35. 01 56 40 40 35. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le répondeur.
Merci Denis, merci à toute l'équipe de CO2 Mon Amour. Les déchets représentent la fin d'un cycle. Ce cycle, déterminé par des choix économico-politiques depuis les années 60, aboutit au rétrécissement et au bouleversement de l'espace, aux exodes et à des sacrifices humains programmés. Enfant, faisiez-vous le doux rêve secret que vous travailleriez dans une décharge, même moderne et réglementée? Adulte, imaginez-vous que ces déchets, qu'il faut bien mettre quelque part, seraient déversés sur votre paillasson. Le réseau coopératif Europe Écologie Les Verts vous invite à découvrir deux citoyens actifs, Michel Marie du CEDRA et Armand Goutron, auteur, le mardi 10 mars à Salon de Provence, au cinéma Les Arcades. Vous découvrirez que ce qui s'est passé dans un coin de France se profile dans votre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous découvrirez comment obtiennent des victoires citoyennes. À bientôt.
Bonjour CO2 mon amour. Un petit message pour t'annoncer qu'on pense à toi et qu'on se mobilise pour que ta concentration ne soit pas trop forte dans l'atmosphère. Comment? En démarrant 1er mars le jeûne pour le climat. Ça consiste à sauter un ou plusieurs repas ou à faire un jeûne carbone tous les premiers du mois jusqu'en décembre 2015 où se tiendra le grand sommet sur le climat à Paris. C'est une initiative soutenue par toutes les religions et aussi d'athées, par des personnalités dont notre éco-botaniste préféré Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Nicolas Hulot, etc. Toutes les infos sur jeûneportleclimat.org. Voilà une initiative qui ose regrouper les religions, les laïcs et le climat a besoin de toutes les forces. Bravo encore pour votre émission, Laura.
01 56 40 40 35 John qui nous écoutait, hein, n'hésitez pas, on avait un jeune la semaine dernière qui était drôlement bien et là aussi vos parcours nous intéressent. On entend, ah oui évidemment des oiseaux, une espèce de pré-printemps et nous partons dans le très beau département du Jura avec Jackie Marioche, je vais vous en dire plus dans quelques instants. Nous sommes dans la forêt de la Joue. Bonjour madame. Et bonjour Jackie Marioche.
Bonjour Denis.
Parce qu'on a commencé évidemment à dire bonjour à la dame, mais nous, on est avec vous dans le Jura et nous sommes dans la forêt de la Joue. Et c'est une forêt étonnante.
Alors moi j'aime la forêt parce que bon, j'aime me promener, bon, que ce soit à pied ou à VTT.
Ou en ski de fond.
Ou en ski de fond, ou en raquette, parce qu'on fait des belles petites balades en raquette là-dessus. Parce qu'il y a cette espèce d'immensité. C'est une mer de résineux. C'est une mer parce qu'on écoute le vent, on écoute les oiseaux, on les identifie. Et puis au détour de tous les chemins, il y a des essences d'arbres différentes, des fleurs. Il y a une flore mais complètement exceptionnelle à laquelle on ne s'attend pas. Et il est fréquent de voir passer un chevreuil, un renard, un sanglier.
Voir un lynx.
Alors il y en a un couple qui est recensé par ici. Ensuite, on remonte sur les secteurs de Nozeroy, où on a également du lynx. On repart sur la frontière suisse, là où on a... C'est-à-dire que sur un secteur, de, disons, à vol d'oiseau de 150 km, bon, moi, je pense qu'on peut recenser peut-être 6-7 couples de lynx.
Au loin, que vois-je? Ah, dans la plaine, je vois la forêt de Chaux. Mais celle-là, on va la laisser. On va grimper un peu en altitude, 700-800 mètres. Et là, on arrive dans cette fameuse forêt de la Joue, 4200 hectares, entre Champagnole dans le Jura et on va dire Levier dans le Doubs. Alors, il y a du résineux, en veux-tu, en voilà, ouais, près de 70% quand même, sapin, épicéa, cèdre, avec un rôle très important, un bon boulot de l'ONF qui sait donc gérer, on va dire, le lieu avec les éclaircissements qui sont tout à fait nécessaires. Et puis, on ramasse aussi les graines, on les ramasse d'ailleurs un peu en France, partout, et je vous proposerai un peu plus tard un reportage sur ce qu'on appelle la sécherie de la Joue, où on fait sécher les graines. Mais là, on va revenir avec Jackie Marioche. Donc on voit cet ensemble de résineux. Hein. L'ajout, ça signifie un ensemble de résineux, un peu comme la peste aussi. Donc la peste, vous avez un peu le mot épicéa peut-être qui est derrière. Vous avez beaucoup de cheminements touristiques et puis 21 sites remarquables dans cette forêt, avec entre autres des maisons forestières, celle de la marine, on s'en doute bien qu'on a utilisé les bois, du rondet, du chevreuil et puis des sites antiques de voies romaines, parce que le sel n'était pas très loin hein, quand même, le Salin, Arquessenant, voilà. Et avec vous, Jacques Hibériot, eh ben, il faut imaginer un accent canadien à couper à la hache au cours de la Première Guerre mondiale. Racontez-nous.
Alors, les Canadiens sont venus pour renforcer les équipes de bûcherons, mais ouais. c'était insignifiant, parce que le marché obligeait à avoir beaucoup de monde et très rapidement.
Ouais, et donc, les hommes étaient partis à la guerre.
Les hommes étaient partis à la guerre, bien sûr, et donc il fallait rapatrier les hommes. Et ces hommes, c'était 2800 Canadiens qui sont venus dans la forêt, ils se sont installés, ils ont abattu des arbres pour s'installer, parce que 2800 personnes, c'est très important. Ils ont construit deux scieries sur ce site ici pour extraire le bois et le débiter.
Il fallait les nourrir, donc il y avait un four à pain.
Donc c'est un four à pain qui tournait jour et nuit, bien sûr, avec des équipes, parce que 2800 personnes, le premier village étant à une douzaine de kilomètres, donc il fallait être en autonomie.
En autonomie.
Et puis les villages n'avaient pas l'importance qu'ils ont maintenant.
Alors on voit de temps en temps encore des arbres là qui sont coupés juste à 1 mètre. Alors ça, c'est le boulot des Canadiens. Et alors ça a complètement révulsé, on va dire, le Jurassien, parce qu'on ne coupe pas comme ça un arbre, c'est du gâchis, quoi.
Oui, mais eux, ils sont habitués, puisqu'il y a tellement de bois dans leur secteur cette coupe à 1 mètre faisait partie de leur culture de bûcheronnage.
C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas se baisser,
et
faire à hauteur de
l'arbre. Mais
ils
savaient où allait tomber l'arbre à 1 cm près, et ça, c'était absolument intéressant.
Enfin, pour le Jurassien, c'est du gâchis quand même.
Oui, bien sûr. Alors, surtout, l'utilité de ces arbres. Ouais. Ils débitaient ces arbres, et ensuite, ils partaient par la petite voie qu'on a aperçue en arrivant, qui emmenait ceci pour rejoindre Verdun, les tranchées, et constituer les tranchées de Verdun.
Ça venait étayer les tranchées. Alors, on faut imaginer, avec ce son, ce vent dans les ramures, qu'on est presque en pleine mer. Et évidemment, un homme qui était visionnaire, donc s'appelait Colbert, et s'est dit, alors il n'y a pas que ce coin de France, on peut penser aussi au chemin de la Mature qui se trouve dans les Pyrénées, mais le sapin est quand même un arbre assez intéressant lorsque l'on construit des bateaux, parce que d'abord il est d'un seul tenant et puis il est souple.
Ce qui était difficile, c'était d'identifier la structure des arbres, leur flexibilité, donc qui était vue par des spécialistes, sur un autre secteur où les épicéas étaient beaucoup plus élancés, plus fins à la base, mais beaucoup plus élancés. Et là, c'était la première maison qui s'est créée, à la maison de la marine, eh bien, des mâts, mais surtout des troncs qui constituaient l'ossature des vaisseaux. Et ça, c'est en 1650 qu'on avait cette charge-là.
C'est-à-dire ossature avec peut-être davantage de chêne et, ou bien aussi
non,
avec du résineux.
Très résineux. Oui, oui. Parce que mélanger des essences, elles ont un système de rétraction qui n'est pas toujours le même. Ces arbres-là qui étaient très élancés étaient souples et il fallait de la souplesse pour pouvoir justement rentrer dans le système de travail, le système d'assemblage, les longueurs et ainsi de suite.
Jacques Hibériot, alors vous êtes assez pour le régime présidentiel ici dans cette forêt, parce que je ne sais pas combien de sapins d'arbres présidents. Alors racontez-nous.
C'est-à-dire on a les arbres présidents, les épicéas présidents, les sapins présidents.
On a au pied, respect.
Alors ici, donc ça c'est quand même assez énorme. Celui-là, regardez son tronc, il est très rectiligne, il file à 45 mètres de haut. Et ça, c'est impressionnant ces arbres-là. Okay. Et on comprend qu'ils pouvaient servir de mât dans la marine.
Ah, oui.
Alors les sapins présidents sont élus par les élus, c'est-à-dire les élus des communes avoisinantes viennent et jugent les arbres. Et lorsqu'ils arrivent à élire un sapin président, mais c'est tout un cérémonial, c'est-à-dire qu'on retrouve les gens des villages, il y a une cocarde qui est installée ou une écharpe bleu, blanc, rouge. Ah oui, mais c'est absolument phénoménal.
Oui, c'est un concours de beauté quand même.
C'est un concours de beauté, bien sûr.
Il faut quoi ? Faut qu'il soit beau, le plus haut, le plus...
Alors qu'il soit bien rectiligne dans son tronc, qu'ils soient bien ronds.
Oui.
Et puis qu'ils sont toujours un peu isolés, ces très gros arbres.
Oui, c'est vrai. Tiens.
Parce que je pense que à leurs pieds, bon, ben, ne peuvent pas pousser parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne repoussent pas aux pieds. Parce que le sol résineux dégage des émanations qui empêchent la nature. Vous voyez, regardez là au pied de cet arbre.
Ouais,
on s'aperçoit qu'il y a un peu de mousse. C'est gris, c'est des aiguilles, c'est des feuilles. Mais on n'a pas une véritable végétation. Et cet arbre sera président jusqu'à sa mort.
Ah oui.
C'est-à-dire que le premier, c'est en 1927, qu'a été élu le premier sapin président. Et depuis, on a eu 5-6, pas plus. On a des fois des petits rues, des petits ruisseaux qui se baladent là au milieu. On dit, on aime la nature sous ses différentes formes parce que un moment c'est une grotte, un moment c'est une petite rivière, un moment c'est des petits endroits où dans les rivières on arrive à avoir des truitelles qui remontent le courant, on arrive à voir des canards, on arrive à voir différents oiseaux, et je crois que c'est ça qui fait la grandeur de notre forêt.
Oula! Alors, là, on a
alors
des
là,
traces.
C'est de la trace, ça c'est du chevreuil.
Oui.
Il y en a deux ou trois.
Ça, vous m'aviez dit, on risque de les voir.
Alors, on va peut-être avancer parce que juste un petit peu plus loin, il y a une petite clairière. Ah. Et c'est vrai que c'est un coin où on peut arriver à voir quelque chose. Et on voit les traces sont toutes fraîches.
Elles sont
toutes
très nettes.
Toutes fraîches. Ouais. Et là, en cheminant, oui, mais on ne va pas faire de bruit. Hein. On va essayer.
Non, d'être... on peut essayer.
Ils nous entendent forcément parce qu'ils entendent. Ils entendent très... Tiens, regarde. Regarde, la petite tête qui sort derrière le buisson.
Elle n'est pas farouche, hein ?
Non, ça, c'est la, c'est une mère. Et regarde les deux autres derrière.
Hop, un et deux.
Oh, mais ça, c'est incroyable. Voilà, un, deux, petit. Et ils nous regardent.
Alors,
tous les
trois. Ce que je vais vous dire, ils sont en train de se poser. On est, un petit 100 mètres.
Une centaine de mètres.
Une centaine de mètres. Donc, voilà. On ne va pas avancer parce que c'est à distance.
Quelle curiosité.
Qu'est-ce que c'est beau.
Et puis, ces oreilles, ces grandes oreilles qui écoutent. Ouais. Leurs yeux qui regardent.
Voilà.
On les perturbe, mais bon, bah, ils ont un tel espace qu'ils savent.
Ça va, quoi.
Ils savent que là.
C'est pour la radio.
Ah oui, non, mais ils voient bien. Je pense qu'ils voient bien qu'on n'a pas de fusil. Bon. Et puis, mais ici, c'est des endroits. Il y a beaucoup d'endroits qui sont des chasses gardées, des chasses protégées. Il y a beaucoup d'espaces qui laissent encore de la présence aux animaux. Et voilà, les vlaki repartent doucement.
Ça y est.
Mais ça y est, ils ont vu qu'on n'était pas si mauvais que ça. Quoi.
Bon, on va pouvoir avancer quand même. On va pouvoir avancer, nous ont niflé d'ailleurs aussi, sûrement.
Et on voit toujours ces traces au sol.
Ah bah oui. Alors une forêt, on va dire, bien gérée écologiquement, qu'est-ce que c'est ?
Écologiquement, ça veut dire que faut laisser la part belle à toutes les essences, à toutes les possibilités, mais ça veut dire aussi que c'est une forêt qui mérite d'être vue.
Attendez, là, on l'entend, là, c'est le pivert, là, qui colle.
Alors voilà, le tac-tac-tac-tac, voilà, c'est le pivert. J'arrive pas à le voir, parce que, bon, des fois, ils sont plus loin.
Là.
Et comme ça résonne sur le bois, dans le tronc, mais c'est vrai que ici on a des chouettes chevêches, on a pas mal de variétés, on a des gros becs, mais on peut trouver aussi des grands ducs. C'est nous qui sommes chez eux.
Et là, depuis le début de cet entretien, donc le temps a tourné, on est passé du joli bleu-gris, et là, ça y est, hein, on a l'eau qui arrive. Et alors, cette eau-là, donc après, ça va être quoi? Une éponge, un réservoir, ça va repartir? On est quand même sur du carstique, non ici?
Ouais, on est sur un sol calcaire.
Voilà,
donc une infiltration de l'eau se fait dans ce sol poreux.
Ouais. Et donc, les arbres profitent de tout cela, et ah, ça va
pour
donner...
C'est ça que la végétation est si belle, elle est... C'est luxuriant ici, vous voyez, hein, entre ces érables qui sont orangés, qui deviennent rouges... Entre ces noisetiers qui surgissent un peu partout, les chevreuils qui sortent comme ça, mais on a l'impression que c'est parce qu'on le mérite. Ils nous donnent une récompense parce qu'on a bien parlé d'eux.
Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'ils nous méritent aussi, après tout.
Peut-être qu'ils écoutent France Inter aussi.
Bah, je pense, ça doit être ça. un naturaliste heureux, j'espère vous aussi, avec ce bol d'air dans le Jura, dans cette forêt de la Joue avec Jackie Mariotte. Merci à Jonathan Kiesta qui l'a mixé. Et évidemment, Christophe Imbert qui a choisi les musiques. Etc. Ah oui. Il a téléphoné à Haydn et lui dit « Je peux t'utiliser, Mozart aussi ?» Ils ont dit oui. Forêt de la Joue, ils ont dit oui. Nous allons nous intéresser au sel dans quelques instants. Oui, on va s'intéresser à notre corps. Puis nous avons aussi du Jean-Marie Pelt. Ah oui, on a aussi Jean-Marie Pelt qui va nous parler de fumette et de cannabis. Oui, mais ça va être de la fumette médicale, hein, je vous rassure. Donc voilà ce qui nous attend, puis aussi vos messages juste après. Cet homme que nous aimons toujours. Allez, de la belle rime au bord de la Garonne. Oui, on n'est pas loin de Toulouse. Et vous sur France Inter.
J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche. Comme les ponts de Paris avec bateau mouche. Et la perle des pleurs avec l'œil des biches. Rime triste. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches, arrimons-nous, on s'en fiche. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches, arrimons-nous, on s'en fiche. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche. Comme les ponts de Paris avec bateau mouche. Et la perle des pleurs avec l'œil des biches. Rime triste. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches, arrimons-nous, on s'en fiche. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. Rimons, rimons, belle dame. Rimons, rimons jusqu'à l'âme. Et que ma poésie rime à ta peau aussi. Rimons, rimons, belle dame. Rimons, rimons jusqu'à l'âme. Et que ma poésie rime à ta peau aussi.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Allez, moi je vais vous offrir aussi un petit message et vous retrouver demain si vous êtes à Nontron dans le Périgord parce que vous avez un festival très bien qui est le festival de la Chevêche. Alors là aussi, biodiversité à tous les étages, donc on va vous rencontrer, auditeur de CO2 Mon Amour, donc à Nontron demain, donc ce parc naturel régional, je crois, du Périgord-Limousin, me semble-t-il. Je crois pas qu'il me semble, d'ailleurs c'est exactement ça. Et puis alors, vos messages à vous, 01 56 40 40 35.
Bonjour tout le monde, ce message s'adresse plus particulièrement aux Parisiens et aux Parisiennes qui voudraient s'investir dans l'observation et la protection des faucons cresserelles de la capitale. Le Centre ornithologique Île-de-France, plus connu sous le nom de CORIF, organise depuis plus de 25 ans un suivi de la reproduction de ce petit faucon qui s'est très bien trouvé sa place en ville. Cette année, nous avons décidé de nous tourner vers un public plus large et d'inviter particulièrement les jeunes à s'investir. Nous proposons deux séances de formation qui auront lieu le mercredi 11 et le jeudi 19 mars de 18h à 19h30. On expliquera comment reconnaître et repérer le faucon cresserelle, comment l'observer sans le déranger jusqu'à l'envol des jeunes faucons? Comment le protéger si une des cavités est menacée par des travaux? Donc si vous êtes intéressé pour observer et protéger les cresserelles, ou si vous connaissez une cavité dans laquelle un couple vient tous les printemps y déposer quelques œufs, eh bien contactez le CORIF à corif@corif.net. C'était Michel, bénévole au CORIF. Au revoir et merci.
Bonjour Denis. En alternative au projet de Notre-Dame-des-Landes, réaménageons l'aéroport existant de Nantes Atlantique. Oui, il est possible d'imaginer des moyens d'optimisation et de réaménagement de l'aéroport existant de Nantes Atlantique pour éviter le saccage du bocage nantais. L'atelier citoyen vient de lancer une forme innovante de concours, un appel à idées coopératif international pour repenser l'aéroport de Nantes sur le site aéroport.xyz. Nous invitons les architectes, urbanistes, paysagistes, artistes, étudiants, militants, poètes, politiciens et tous ceux qui pensent avec ingéniosité le recyclage et la rénovation urbaine à proposer des moyens d'optimisation et de réaménagement de l'aéroport existant de Nantes Atlantique. Il s'agit aussi d'imaginer un futur plus riche pour cette partie du territoire nantais en s'appuyant sur les structures existantes et les besoins de la ville elle-même. L'appel à aider est ouvert à toutes et à tous. Les propositions sont libres. Je rappelle l'adresse du site de l'appel à aider, aéroport.xyz. Au revoir et bonne journée.
Mon petit écosystème à moi.
Il est arrivé avec sa salière. Bonjour, cher docteur Laurent Chevalier.
Bonjour, Denis.
Alors, passe-moi le sel, hein, ça va être ça, dans notre petit écosystème à moi. On en bouffe trop, hein, du sel, je pense.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Oui. Alors, il faut savoir qu'au niveau physiologique, la personne humaine n'a besoin que de 1 à 2 grammes de sel par jour. C'est ce qui se passait à peu près au moment de la préhistoire. Et on a à peu près les mêmes gènes qu'au temps de la préhistoire.
Ah, je me souviens, oui.
L'Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas dépasser 5 grammes par jour. Et en fait, dans les pays occidentaux, on en consomme beaucoup plus. Mmh. Alors en France, la consommation a un petit peu diminué grâce aux campagnes de prévention. On est à peu près à 8 à 9 grammes par jour. Mais pour les amateurs de frites, on n'est pas loin de 25 grammes.
C'est sûr.
Donc, on doit faire un petit peu attention à ce sel. Ce sel, c'est un tueur silencieux. Ça aggrave et ça provoque des maladies cardiovasculaires. Il y a des dizaines de milliers de morts chaque année par an en France à cause du sel. Donc, il faut faire très attention, d'autant plus qu'on ne s'en rend pas forcément compte.
Ah non, les plats préparés, un peu...
Alors, où le trouve-t-on? Effectivement, dans les plats préparés, dans les conserves, et puis il y a des produits qui en contiennent, c'est bien identifié, les frites, les chips, les biscuits apéritifs. Donc, il faut faire un petit peu attention à ce sel. Pourquoi l'industrie agroalimentaire met du sel un peu partout?
Et du sucre.
Et du sucre, surtout le sel, parce que c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire que ça fait manger. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple très précis, les personnes qui sont âgées, qui sont alitées, qui ont un peu de tension, souvent on avait tendance à leur dire de limiter le sel parce que ça pouvait aggraver l'hypertension artérielle ou ça pouvait aggraver certaines choses. Mais actuellement, on leur dit d'avoir une alimentation normosodée, c'est-à-dire une alimentation normale en sel, puisque s'ils consomment plus du tout de sel, eh bien, ils ont une perte d'appétit, ils se dénutrissent et c'est encore pire. Mmh. Donc les personnes qui sont hypertendues et âgées, on leur dit de prendre du sel normalement pour qu'ils continuent à manger. Donc ce sel est un exhausteur du goût qui pousse à consommer sans qu'on s'en rende forcément compte et il a des effets particulièrement délétères sur l'organisme. Donc il faut le traquer. Alors comment on le traque? D'abord, on fait attention effectivement à tous les produits industriels et beaucoup en contiennent de façon excessive. On va regarder sur l'étiquette, soit c'est indiqué le taux de sel, mais souvent on marque sodium.
Oui.
Et sodium...
Oh, c'est pas du sel. Mais si,
c'est du sel. C'est du sel, il faut faire une conversion. C'est-à-dire que quand il y a par exemple 1 gramme de sodium, c'est indiqué 1 gramme de sodium, ça correspond à 2,5 grammes de sel.
Alors c'est quoi ça? Entre guillemets, c'est escroquerie. Pourquoi on ne met pas sel?
Alors, voyez, normalement, dans la réglementation, on va être obligé de le mettre parce que les produits un petit peu salés, ils ne voulaient pas l'avouer. Donc, ils mettaient sodium à la place du sel, tout simplement. Donc, soyez très vigilants. Limiter l'apport au sel.
C'est intéressant. 1 gramme de sodium égale 2,5 grammes de sel. C'est ça la conversion.
Quoi. Exactement. Et donc, 1 gramme de sel égale 0,4 grammes de sodium.
Parce que là, il y a plein de gens. Enfin, moi, le premier,
je vois sodium, je me suis dit, bon, bah, c'est le sel.
Voilà, c'est oui. Donc, c'est qu'une partie. Ah oui. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut être très, très vigilant par rapport à ça. Il faut avoir consommé des produits bruts, éviter d'avoir une salière sur la table. Oui. Et puis, on va utiliser des plantes aromatiques le plus possible en cuisine. Donc, il faut tout faire pour se déshabituer du sel. Et en fait, c'est relativement facile, mais il faut rentrer dans cette démarche. Il faut vraiment rentrer dans cette démarche et on y arrive assez facilement à se sevrer petit à petit du sel.
Alors, on aurait pu faire une autre émission au Moyen-Âge. Et là, si vous voulez, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais comment est-ce que l'on débusquait les sorcières autrefois au Moyen-Âge ? On rentrait et s'il n'y avait pas de sel qui chassait le diable sur la table, c'est que la femme était une sorcière. Voyez-vous ? Ah, voilà. Et oui.
Et autrefois, on manquait de sel. Et d'ailleurs, il y avait aussi des petits flacons. Et les petits flacons, on mettait du sel et ils étaient considérés comme des porte-bonheur.
Exactement.
Tout simplement.
Voilà. Laurent, donc on le rappelle, le sel est l'ennemi de quoi ? Donc du rein, du cœur, de tout
Du système cardiovasculaire. Voilà. Et je crois qu'il faut bien retenir cette notion que c'est un tueur silencieux. On en met le moins possible. On le replace par des épices, par des aromates. On a tout un tas de possibilités. Et ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est qu'il est tout à fait possible de diminuer sa consommation de sel. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on s'est habitué à manger de façon hyposodé ou normosodé, mais sans excès.
Merci à vous, Laurent Chevalier. Merci, cher docteur. Le livre antitoxique, c'est au livre de poche. Et puis, on se retrouvera bon, tout à fait assez rapidement, puisque vous intervenez dans cette émission, pour notre écologie personnelle. Hein, ça nous fait beaucoup de bien. Alors, comme c'est une émission à thème et qu'on réfléchit beaucoup, hein, donc on vous a parlé du sel, on va continuer avec le sel. Cette fois-ci, ça va être du sel de déneigement, on va dire dit écologique. Alors, Jean-Louis Brault, vous êtes avec nous. Bonjour à vous.
Eh bien, bonjour Denis Chessou.
Vous êtes ingénieur, vous êtes chimiste. Et alors, parlez-nous d'une solution alternative intéressante au sel de déneigement. Autrement dit, nous avons le chlorure de sodium que l'on connaît bien, qui fait quand même un certain nombre de ravages à la fois sur les nappes phréatiques, sur la corrosion, sur les bétons, sur les ciments. Donc, quel a été votre constat et qu'est-ce que vous pouvez proposer ?
Eh bien, le constat, vous venez de le faire. Vous n'avez parlé que du milieu urbain, mais il faut savoir que le chlorure de calcium dégrade aussi l'environnement au niveau de la petite flore et de la faune. Mmh. Nous nous sommes penchés sur ce problème lorsque nous travaillons sur la cellulose en solution, en essayant de trouver un débouché à ces recherches. Et on a très vite choisi le chemin de l'acétate de calcium, lequel acétate de calcium a différents mérites. Celui d'avoir les mêmes œufs techniques que le chlorure de sodium, que vous évoquiez tout à l'heure.
C'est-à-dire que ça va faire fondre la neige ?
Tout à fait, faire fondre la neige ou faire fondre la glace en fonction des températures. Il y a eu changement d'état ou il n'y a pas eu. Et puis, sur ces aspects éminemment positifs, c'est-à-dire qu'il est très très vite dégradé dans le sol, il a une durée de vie de 2 jours à peu près, et qui plus est, ne corrode pas les métaux.
Jean-Louis Brault, où trouve-t-on en fait cet acétate de calcium ?
Alors cet acétate de calcium, malheureusement pour nous, ça se trouve quand même pas comme ça au bord du chemin. C'est une composition qui procède à partir d'un carbonate de calcium, très légèrement modifié, à savoir qu'on l'a monté en température. Hein, donc c'est à ce stade-là qu'on récupère, nous, le calcium.
Et ça vient quoi ? Ça vient des carrières ?
Tout à fait, des carrières. Alors dans notre région, il y en a un certain nombre, il y en a partout en France. Le second précurseur, c'est le terme utilisé en chimie, nous, on est allé le chercher sur une base du petit lait. En fait, on va chercher du lactosérum, ce qu'est le lactosérum est épuré, modifié. Et à l'issue de cette petite modification, on va sortir ce qu'on appelle un acide éthanoïque, un acide acétique. Le vinaigre a une concentration à peu près de 3% dans une phase aqueuse. Nous, on est à peu près aux alentours de 10%.
Alors, ce vinaigre donc, va vous servir aussi pour le déneigement ou bien utilisation du vinaigre comme désherbant écologique ?
Effectivement, on se rend bien compte que ce produit, pour notre jeune entreprise, n'était négociable que pendant 6 mois. Il fallait donc trouver une activité secondaire pour avoir une situation encore une fois pérenne. Et toujours pareil, les scientifiques, on est toujours dans la littérature, on regarde ce qui se fait, on ne part jamais de rien. Et en utilisant le second précurseur avec des dilutions à peu près comparables, on arrive à une solution de désherbage qui est extrêmement respectueuse de l'environnement. Mais en tout cas, voilà, deux précurseurs et deux activités.
Donc pour le sel, on va dire qu'il n'y a pas de chlorure, il n'y a pas de sodium, il n'y a pas de magnésium. Donc ça, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il faut quand même beaucoup d'énergie pour transformer le carbonate de calcium en acétate de calcium ?
Ah ben non, pas du tout, parce que pour essayer de mettre un petit peu les choses en contexte, nous, on utilise des laits, on appelle ça un lait de chaud. Donc ce sont des phases liquides. Et bien évidemment, c'est très très facile à mélanger. avec la phase liquide et aqueuse composée d'acide acétique avec le pourcentage que j'ai évoqué tout à l'heure.
Parlons maintenant de prix. On sait que du sel de déneigement traditionnel, ça va tourner entre 100 et 150 euros la tonne. Ça, c'est en vrac. Si on est un particulier, ça va tourner autour de 350 euros. Des solutions alternatives déjà existent, mais là, on dépasse les 1500 euros la tonne. Et vous, avec votre système, vous pouvez sortir la tonne à combien ?
Alors actuellement, on sort cette tonne à 500 euros la tonne. On a un facteur qui est pénalisant, c'est qu'on produit encore des quantités relativement faibles. Rappelons que le marché français, c'est 2 500 000 tonnes de chlore de sodium. Hein. Mm-hmm. Nous, on va produire cet hiver, vous voyez, 500 ou 600 tonnes. Donc lorsque l'on aura franchi une certaine taille, je pense que les 500 euros seront largement rabattus.
Voilà, donc initiative positive intéressante du domaine à la fois scientifique et technique avec Jean-Louis Brault, donc de Selver, qui l'a créé. 01 56 40 40 35 avant de retrouver Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis Chessou, bonjour aux auditeurs de CO2 Mon Amour. Voilà, je suis Thierry de Noblens, je suis le président de la Fédération France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Et je viens vous parler aujourd'hui du grand tétra qui est en régression très forte dans les Pyrénées puisque cette espèce a perdu 75% de ses effectifs en 50 ans. Malgré ça, la chasse de cette espèce est autorisée chaque année, notamment dans deux départements, l'Ariège et les Hautes-Pyrénées. Depuis donc 2008, cette chasse est en fait illégale maintenant depuis 7 ans. Et les tribunaux administratifs ou les cours d'appel nous donnent systématiquement raison. Pour préserver cette espèce menacée, les associations de protection de la nature sont obligées de mener une bataille juridique de longue haleine contre le ministère de l'écologie, qui cède sans résister au lobby de la chasse. Au revoir.
Dites-le avec des fleurs, dites-le avec des plantes.
Tiens donc, ça sent l'herbe. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis.
Nous allons parler du chanvre indien, autrement dit du cannabis. Et là, le pharmacien que vous êtes nous intéresse bien.
Oui, alors c'est une plante que j'ai fréquentée de près.
Oui.
Parce que quand j'ai fait mon stage en officine, en pharmacie, c'était en 51, il y a donc très longtemps, on avait du cannabis à la pharmacie, ainsi que des dérivés de l'opium et de la morphine, ainsi que des dérivés de la coca et de la cocaïne. Tous ces médicaments étaient régis par ce qu'on appelait le tableau B. Ça veut dire médicaments qui sont susceptibles, petit 1, de calmer la douleur, mais aussi de produire des addictions. Donc on ne les prescrivait que d'une manière un peu spécifique. Le médecin ne pouvait les prescrire que pendant une semaine. Il devait renouveler sur des ordonnances particulières avec un numéro, c'était un peu compliqué. Et puis j'ai été à la fac ensuite, et en 1953, le cannabis a été interdit en médecine. J'ai pensé à des malades qui en prenaient régulièrement pendant que je faisais mon stage, et j'ai trouvé qu'on ne lutte pas contre des addictions en supprimant un médicament qui a son intérêt.
Et vous, Jean-Marie, vous êtes dit, c'est peut-être pas la bonne idée, ça, d'arrêter le cannabis.
Quand j'ai été chargé, après l'agrégation, du cours de pharmacognosie, c'est-à-dire du cours sur les plantes médicinales, j'ai traité le cannabis, on le faisait tous à la fac, et j'ai dit à mes étudiants que je croyais qu'avoir supprimé le cannabis comme médicament était une mauvaise idée. À cette époque-là, je ne savais pas encore qu'une autre mauvaise idée était caractéristique de notre pays, c'est-à-dire une très grande résistance à soigner la douleur. Dans les pays anglo-saxons, depuis toujours, on a pris des risques souvent pour calmer les douleurs des gens qui sont en fin de vie, les gens qui ont des cancers. On ne prescrivait pas la morphine couramment à l'époque parce qu'on pensait que ça pourrait produire une addiction. Bon, ben, si vous êtes en fin de vie, oui, l'addiction, on s'en fiche. Oui, je veux dire, c'était une erreur de raisonnement. On a vu, par conséquent, que nous prenions, nous, Français, un retard consternant dans le domaine des soins à la douleur. Et c'est maintenant ce qui est en train de changer. Maintenant, il y a des centres anti-douleurs partout, et on réfléchit beaucoup à calmer la douleur. Et de ce point de vue, on revient, petit à petit, au cannabis médical. Alors, depuis déjà un certain nombre d'années, il y a une pratique qui consiste à donner des autorisations temporaires d'utilisation dans des cas très particuliers, sur des demandes personnalisées pour telle personne qui pourra utiliser le cannabis.
C'est assez pointu quand même. Hein?
C'est très pointu.
Oui.
Oh, il n'y a eu qu'une centaine de cas en l'espace de plusieurs années, donc c'était des cas très rares. Et on s'est aperçu que ce médicament était efficace pour lutter contre les contractures qui font beaucoup souffrir les gens atteints de sclérose en plaques. Oui. Donc voilà le petit progrès qui a été fait. Mais maintenant, on va vers des progrès plus importants. Et maintenant, on a, sur le marché international, diversement autorisé selon les pays, deux médicaments. L'un, c'est le Marinol. C'est une molécule très proche de la molécule la plus importante du cannabis, qui est le tétrahydrocannabinol, et un autre médicament qui s'appelle le Sativex, et qui contient deux molécules de la résine de cannabis. En fait, cette résine de cannabis, c'est une sorte d'usine chimique prodigieuse. On a isolé 75 molécules proches les unes des autres, qui se transforment les unes dans les autres, et qui n'ont pas les mêmes propriétés. Et dans le Sativex, il y a une molécule qui est très antidouleur, et une molécule qui diminue l'addiction. Donc c'est un médicament très intéressant. On le fabrique en Grande-Bretagne, dans des serres, ultra secrète.
Bah oui.
Personne n'y a jamais été.
Oui.
Personne n'y a jamais été. Il n'y a pas un journaliste qui a mis les pieds. Et donc, on va petit à petit vers une utilisation raisonnable de ce cannabis. Alors,
pour quelles indications thérapeutiques, Jean-Marie ?
Eh bien, d'abord, effectivement, pour la sclérose en plaques. Mais aussi, on s'est aperçu que pour les vomissements, souvent, qui suivent une chimiothérapie dure...
Oui.
Le cannabis remet l'intestin et le tube digestif en place. On s'est aperçu aussi que pour des gens qui ont le sida et qui sont dégoûtés de la nourriture, le cannabis restaure le goût de la nourriture. Et puis, naturellement, pour la douleur. Pour la douleur, il rentre dans le panel des médicaments qui sont actifs contre les grandes douleurs, sachant que la douleur ne régresse pas automatiquement, par exemple avec la morphine, qui reste le grand médicament de la douleur. Mais beaucoup de douleurs résistent, les douleurs de fin de vie souvent résistent, les cancers, à la morphine. Et là, on peut essayer, évidemment, d'autres médicaments. Et parmi ceux-ci, on a le cannabis. Alors les Chinois, qui l'utilisent depuis 5000 ans, n'avaient pas tort. Et je me réjouis beaucoup de voir que l'évolution va dans le bon sens, mais avec une prudence extrême. Et le cannabis thérapeutique, c'est un cannabis qui ne sera pas du tout... l'occasion de rendre le cannabis toxicomanogène autorisé. On restera sur la législation classique du cannabis pour les drogués, mais on en fera un médicament, et donc ça c'est très bien.
D'accord, on ne fera pas tourner un pétard, si vous voulez, pour se dire, tiens, tu auras moins de douleur.
Non, non, ça ne sera pas ça.
C'est ça, d'accord.
Ça ne sera pas ça du tout.
Okay.
Mais c'est un peu ça, d'ailleurs. Ça se produit comme ça. Il y a des gens qui sont dans des douleurs très grandes et qui utilisent du cannabis, qui vont chercher sur les réseaux parallèles pour soigner leurs douleurs.
Merci beaucoup, Jean-Marie Pelt.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
Et puis avant, de toute façon, que Jean-Marie fasse tourner un pétard, il y a encore un petit peu de marge. Merci à Jérôme Boulet, à Christophe Imbert qui réalisait cette émission, à Albert Houck, Élise Christophe et Grégory Wallon à la technique, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Alors rendez-vous, n'hésitez pas, hein, sur le site franceinter.fr. Allez-y, déposez vos messages, discutez entre vous. Et puis à propos de messages, 01 56 40 40 35, toutes sortes de messages sont les bienvenus. La semaine prochaine, d'ailleurs aussi, vous pouvez aussi axer un petit peu là-dessus, parce qu'avec 60 millions de consommateurs, on va parler des produits ménagers, ceux en tout cas qui nous déglinguent le moins, en tout cas les plus naturels, la santé lorsqu'on les utilise. Donc les alternatives à un certain nombre de produits. Alors à la fois, il y a des trucs de grand-mère que l'on connaît, hein, bah, bien sûr, et puis d'autres que l'on connaît un petit peu moins bien. Puis parfois, les grands-mères ne sont plus là pour en parler, donc CO2 en parlera. L'actu du Mon Petit Loup, ce sera 19h54 demain. Et puis moi, je vous retrouve, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, à Nontron demain pour le Festival de la Chevêche. Très bel oiseau. Mais oui, on en a besoin, donc il faut un milieu bien protégé. Ce sera à Nontron.